Chapitre 52. L'oncle de Vincent quitta le monde en présence d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles deux de ses enfants, les plus jeunes et les moins rancuniers, Véronique et David, que Vincent fut heureux de retrouver, après tant d'années à n'échanger quelques mots qu'à l'occasion des anniversaires ou de la nouvelle année. Tandis qu'ils se remémoraient leur enfance, l'arbre tordu au fond du jardin dans lequel ils passaient des journées entières, le front ouvert contre le radiateur en fonte de la grand-mère le soir de Noël, les parties de mastermind près de la cheminée. Vincent songea que les funérailles étaient le seul endroit où se mêlaient si sauvagement le chagrin et la joie, où l'on pleurait un absent tout en célébrant les présents. Elsa n'avait aucune raison d'assister à la cérémonie. Pourtant, elle s'était arrangée pour accompagner Christiane, qui n'avait pas opposé une grande résistance, ravie de découvrir que sa collègue était aussi fan du romancier. Les proches du défunt s'installèrent dans la vaste salle, barrée de rangées de chaises. Elsa, Christiane, Pierrot et Kader attendaient dans un coin, les mains derrière le dos. Les regards n'étaient certes pas nombreux, mais ils avaient le mauvais goût d'être tous braqués sur eux. Christiane déplia son discours et s'installa derrière le pupitre. Mesdames et messieurs, nous voici réunis pour célébrer la vie de Jacques et lui dire au revoir. Il était, selon les dires de tous, un homme bon et généreux. Du coin de l'œil, Vincent vit sa cousine lever les yeux au ciel. C'était Monique qui avait brossé le portrait de Jacques, afin de rédiger l'éloge funèbre. Malgré les années qui avaient façonné un être rude et égoïste, elle avait conservé une profonde affection pour son frère. Il était toujours resté ce garçon tendre, qui se glissait dans son lit pour fuir ses cauchemars, qui lui offrait des bouquets de pâquerettes. Cet adolescent qui la faisait rire avec ses imitations approximatives et sa mauvaise foi. Rien n'efface les enfants, Vincent. Ils peuvent devenir les plus grands salopards. Si tu les as aimés petits, tu les aimeras quoi qu'il arrive, avait-elle dit un jour. Il s'était projeté dans un avenir où ses filles seraient devenues odieuses. S'était demandé s'il les aimerait autant. Où se situait la limite? À quel point il était possible d'étirer les frontières de l'amour? Il avait pensé à tous ses parents de criminels qui pleuraient leur progéniture, qui clamaient leur innocence en dépit des preuves, qui niaient l'évidence pour continuer de les aimer. Il lui avait fallu admettre que si Lou ou Joséphine se rendaient un jour coupables d'un meurtre, il serait sans doute le premier à leur filer un coup de main pour se débarrasser du corps. Il prit la main de sa mère dans la sienne. Elle étouffa un sanglot. Christiane poursuivait son éloge. Consacré 30 ans de sa vie à la recherche médicale, c'était un passionné qui ne comptait pas ses heures. Il aimait le sport, particulièrement le tennis et le vélo. Il pouvait parcourir des dizaines de kilomètres chaque dimanche matin, avant même que ses enfants aient ouvert les paupières. L'âme humaine était ainsi faite qu'on pouvait être un connard tout autant qu'un saint, selon l'angle du reflet dans le miroir. Bercé par la voix douce de Christiane, Vincent pensa à la complexité de l'existence. Combien les mots pouvaient embellir les souvenirs. Puis son esprit dériva sur la pile qu'il devait absolument acheter après la cérémonie. Sa montre ne fonctionnait plus. Il était persuadé d'avoir une pile d'avance, mais évidemment il ne l'avait pas trouvée. Il en était à se demander s'il l'avait cherchée partout, et dans les bons tiroirs. Quand la tristesse lui tomba dessus. Elle dégringola du passé et vint s'écraser sur ses épaules. Boum! Le choc fut si soudain qu'il pensa un instant que tout le monde l'avait entendu. Les larmes lui piquèrent les yeux. Son regard se posa sur le cercueil blanc, puis sur la vitre en arrière-plan. Une immense baie vitrée qui courait sur toute la largeur de la pièce, quadrillée de fins croisillons blancs. Des arbres se tenaient là, derrière, en rang serré. Les branches rousses, la mousse aux pieds, comme une assistance de curieux silencieux. Il en était un qui se détachait des autres, avec ses feuilles dorées en forme d'éventail et ses bras tendus vers le ciel. Vincent laissa ses larmes rouler. Il s'était renseigné depuis la dernière fois, quand ce même arbre jaune n'avait pas quitté ses pensées. Il s'agissait d'un ginkgo biloba, une espèce existant depuis plus de 200 millions d'années, souvent millénaire, la seule qui aurait survécu à Hiroshima. Chaque fois qu'il en avait croisé un, depuis, il y avait vu un signe. Il avait grandi, gagné en épaisseur. Il avait pris 25 ans, lui aussi. Combien de regards noyés l'arbre avait-il accueilli? Combien de diversions avait-il offertes? En arrivant au crématorium, Vincent savait que des souvenirs l'y attendaient et risquaient de le percuter. Il n'avait pas imaginé que ce serait dans un feuillage doré que lui apparaîtrait l'absence de Margot. Véronique, la fille de Martin, a choisi de lire un texte en son honneur. Elsa entendit Pierrot marmonner. Elle s'est plantée, elle a dit Martin. Jacques, Martin, c'est du pareil au même, répliqua doucement Kader. Elsa les fusilla du regard. Kader pouffa intérieurement en répétant « Jacques Martin ». C'était un talent que les employés des pompes funèbres développaient rapidement. Ça se passait au fond des yeux. Rien dans le visage ou la posture ne révélait l'hilarité interne. Véronique regagna sa place après avoir lu, sans émotion apparente, un adieu à son père. Christiane reprit la parole. « À présent, nous allons écouter une chanson que Jacques aimait particulièrement. Je vous invite à prendre le temps de vous recueillir en vous remémorant vos souvenirs heureux avec lui. » La voix de Michel Sardou s'éleva. Elsa leva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Vincent. Il pleurait. Elle lui tendit un sourire. Il était trop loin pour des Kleenex.